Alors, je me réjouis d'être là avec vous. Et puis, il y a, je pense, un an, un peu plus, maintenant, j'avais donné une partie de mon témoignage ici. Et je vais faire ce matin en deux temps. Un moment, je vais raconter un peu de ce qui s'est passé jusque-là depuis que j'étais venu ici au niveau de mon témoignage. Et puis après, je vais continuer. C'est en 2017. En 2017, ça c'était une année clé pour, en fait, ouais, on était en train de fêter les 500 ans de la réforme. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis, au printemps de cette année-là, un ami m'a donné un livre, et c'est la biographie. Ah, excusez-moi, quand je marchais, je pense qu'il y avait une bête qui entrait dans mes yeux, là. Et ce livre, c'est la biographie de Dietrich Bonhoeffer. Et en lisant cette biographie, ça m'a tellement travaillé. Et puis, un mot qui ressortait, c'était la cohérence de entre ce que lui, il voulait vivre avec Dieu et toute l'implication que ça a eu sur sa vie. Avec ce qu'il disait, ce qu'il comprenait de Dieu, en gros, ça l'a amené au martyre, tout simplement. Et la même année, je sais pas si j'avais déjà dit, là, mon cœur c'était, Seigneur, je veux vivre quelque chose de particulier avec toi en cette année où on fête les 500 ans de la réforme. Ça n'a pas manqué. Et assez rapidement, j'étais pasteur à Chandon à l'époque, j'ai commencé à prêcher des messages allant dans ce sens-là. Entre guillemets, je disais à l'époque, je voulais mettre le feu à l'église, pas le feu physique, mais ça n'a pas tardé que, assez rapidement, j'entends Dieu me dire, Noël, c'est bien, tu veux réformer l'église, tu veux réformer la société, mais d'abord réforme ta vie. OK? On était à une retraite à Mont Mihai avec Campus et durant ce temps, là, je pense, j'entends encore une deuxième phrase. Tu veux réformer l'Église, la société, non seulement réforme ta vie, mais réforme ta famille. Je dis, Seigneur, en gros, un peu, mais ça suffit maintenant. Je pense qu'on va oublier l'idée de la réforme. Parce que c'est deux sujets qui allaient m'écouter beaucoup, en fait. Mais j'avais parlé de Bonhoeffer au début. C'est comme si j'avais mis mon doigt déjà trop loin en lisant ce Bonhoeffer et en voyant tout ce que le fait de vouloir vivre avec Dieu lui a coûté. Je ne pouvais plus dire, ah non, je n'ai rien entendu. Et, ok, comment commencer? Et dans le même temps, un neveu, je parle de réforme ta famille, mais un neveu m'écrit du Bénin et me dit, écoute, je vais un peu paraphraser, c'est le paraphraser, il dit, c'est le temps de sonner la fin de la récréation dans notre famille, en fait, notre village au Bénin, vous connaissez un peu déjà de mon histoire, parce que en 89, on s'était converti une partie de la famille et moi je faisais partie de ce premier groupe là. À l'époque j'avais 10 ans et puis il y a eu tellement de changements dans notre famille. Déjà mes aînés ne réussissaient pas l'école, ils étaient bons en classe, excellents, mais quand il y avait les examens nationaux, ils échouaient systématiquement, systématiquement et ils finissent par revenir à la maison. Donc la famille était remplie de jeunes adultes aigri, amer. Et puis, en 89, on se convertit et je pense 2 ans plus tard, les mêmes examens, les jeunes commençaient à réussir à ces examens et après au bac et à l'université et ainsi de suite. Donc, une des répercussions dans le monde physique de notre conversion, c'est qu'il y a eu des malédictions qui ont sauté, juste comme ça, au fait, et dans tout plein de domaines. Et puis le truc, c'est que après la maison était remplie de gens qui, de cadres, ça veut dire aussi, qui gagnaient leur vie, au fait. Et puis On a commencé à gentiment oublier Dieu, au fait, hein, un peu d'orgueil. Et puis quand il y avait les réunions de famille, ouais, c'est, et le feu qu'on a eu au début, les compromis ont commencé. Et ces compromis chez nous voulaient aussi dire dans le domaine spirituel. Mon papa, comme vous le savez, peut-être était prêtre vaudou. Donc en décédant, il a laissé ça à quelqu'un d'autre de la famille, a pris le relève, ou la relève, ouais, la relève, le relais. Et puis, du coup, c'était toujours présent, en fait, hein, ces fétiches et leurs pratiques. Et au début de la conversion, nous, on était très directs, les limites étaient claires, les frontières nettes, mais avec les compromis, on ne savait plus trop. Et c'est les chrétiens qui commençaient à avoir peur à nouveau de ces mêmes choses desquelles on était partis. En 2017, quand Dieu me disait « Réforme ta famille », je savais ce qui m'attendait. Et au même moment, quand ce neveu m'écrit sonner la fin de la récréation, j'ai dit « Ok ». Alors, je ne pouvais pas me cacher en Suisse en disant « C'est assez loin, c'est quelqu'un de la famille qui m'écrit les mêmes choses que Dieu me dit ». Et j'ai dit « Ok, je suis vu, et maintenant je dois faire quelque chose ». Et on a commencé comme ça avec ce neveu, commencer à jeûner chaque jeudi matin, et puis deux autres se sont joints à nous, et au mois de novembre de la même année, on a fait cette rencontre dans ma famille au Bénin, que je vous ai déjà raconté ici plusieurs fois, une rencontre de repentance où l'idée, c'est on fait une rencontre de famille, mais nous invitons que les chrétiens. Donc déjà, c'était pour marquer à nouveau les limites, au fait. Et puis, on se retrouve et toute la journée, moi j'ai enseigné Vivre Libéré ce coup-là. Et le soir, c'était fort les témoignages qu'on a vécu, des trucs, tu vois, des problèmes de pardon. En fait, j'ai décidé, je n'allais plus pardonner à ce demi-frère jusqu'à la mort. Et puis maintenant, je décide de lui pardonner. Donc des trucs de ce genre-là. Et puis depuis 2017, justement, il y a eu cette chaîne de prière dans notre famille qui continue aujourd'hui. Donc, l'idée de mouvement de prière, repentance, on a eu la grâce de le commencer aussi dans la famille et de voir ce que ça a créé jusqu'à aujourd'hui, au fait. Et on vit à nouveau comme une réforme dans cette famille. Et en novembre, par la grâce de Dieu, je vais retourner. Et maintenant, on profite pour faire une campagne d'évangélisation, bénir la région. OK, c'était en 2017. Et puis, je fais cet événement, je vis cet événement et je reviens en Suisse. Et puis, je sentais, c'est vrai, que j'avais fait un grand pas, un grand saut dans ma foi. Et c'était comme un moment où, longtemps, par le passé, je n'avais plus un moment aussi défiant pour moi. Je sentais comme Dieu me parlait plus clairement. Ça fait qu'en 2018, c'est aussi une année repère pour moi jusqu'à maintenant. C'était en novembre 2017, donc j'ai continué dans cet élan-là. En 2017, tout plein de paroles clés de la part de Dieu. Ouais, et il y avait des choses où c'était même dans le domaine politique, j'avais aucun moyen de les connaître. Et puis, par des révélations, Dieu me les montre, je partage aux gens. On ne savait pas quoi en fait, c'est longtemps après, on voit ces choses se passer au niveau national. Et puis, je dis, mais bon, ok, voilà. Et ça m'a rapproché de Dieu. Je voulais connaître toujours plus ce Dieu. En novembre, non, pas en novembre, en novembre, c'était en 2017. En 2018, après novembre 2017, tout à coup, je commence à sentir un truc en moi. À l'époque, j'étais pasteur à Chandon, missionnaire à Campus. Et petit à petit, je n'étais plus à l'aise dans les deux choses où j'étais. Et puis, je me dis, c'est des émotions, ça va se calmer. J'essayais à les étouffer un peu. Et plus je les étouffais, plus ça grandissait. Et puis, je savais pas quoi en faire. Et à un moment donné, assez clairement, j'étais en Allemagne pour une retraite, et puis aussi ici en Suisse, où là j'entendais, c'est comme si j'étais invité à laisser les deux choses que je faisais et à commencer quelque chose de nouveau. J'ai dit, mais bon, comment on fait ça? Et puis, c'était aussi quand même mon gagne-pain aussi. Donc, ça implique la famille, c'est pas que moi. Et c'était assez clair dans mon cœur et je partage ça dans la famille. Et puis, c'était chaud. Et puis, j'ai dit, OK, j'ai mis des limites entre guillemets à Dieu en disant, Seigneur, tu vois, voilà mes conditions. J'ai dit, OK, d'ici 2 ans, je vais essayer de... Et les 2 ans arrivent, et jour pour jour, j'étais au milieu de la pandémie de 2020, et puis, mais à partir de là, c'était devenu très dur pour moi, parce que c'est comme si je me retrouvais de l'autre côté, de comme ce que Dieu me montrait, mais je n'avais pas encore fait le pas que je disais à Dieu, j'allais faire. C'était dur. La pandémie a été très difficile pour moi, comme je l'ai partagé là, il y a une année dans mon témoignage. Pas que j'ai eu le virus, je n'ai pas eu le virus, mais c'est comme si Dieu labourait à l'intérieur. Et quand la pandémie est finie, je savais ce qu'il y avait à faire. Donc, j'ai arrêté à Chandon. Comme je vous disais aussi, je me disais, je n'avais plus rien à donner. Je me sentais vidé. Et puis, j'ai dit, mais bon, comment les gens sont en train de me payer? Moi, je suis dans cet état, j'ai démissionné. Et puis, après, je viens. L'idée, c'était, OK, quitter les deux choses et commencer quelque chose de nouveau. Mais j'étais déjà en 2022 très, très fatigué, un peu comme ça. Et j'arrête en septembre. J'ai été marcher avec un ami de bien ici qui était pasteur à Bévégon Plus, mais puis chacun partageait son sujet. Je disais, ah, je veux augmenter mon pourcentage à campus, mais qui veut dire campus augmenter son pourcentage, c'est il faut trouver un cercle de soutien plus grand. Et il me dit, mais viens chez nous à 20%, comme ça. Comme j'étais à 40, je voulais aller à 80%. Il me dit, viens chez nous à 20%, tu nous aides dans l'équipe pastorale et ça te fait que 20% de cercle de soutien à trouver. J'ai dit, c'était pas du tout dans mon plan, mais j'avais une paix, vraiment la paix de Dieu. Je partage avec Gabi qui était aussi d'accord avec. OK, donc du coup déjà le lendemain, je lui dis oui, faisons comme ça. Et puis... En février 2023, je commence à 20% chez eux et puis c'est rapidement. Ce qui était particulier dans cette période, c'est une église germanophone. C'est vrai, ils prêchent en Schriftdeutsch, Hochdeutsch, et puis le suisse allemand, ça, je ne pouvais pas. Et j'ai commencé à prêcher en Schriftdeutsch là, et puis chaque fois je me dis, Seigneur, je pense qu'ils ne comprennent rien de ce que je dis, parce que je ne sais pas si j'arrive à déjà les messages que je voulais donner. Ça me prenait beaucoup de temps. Le contenu était assez vite clair, mais la manière de le dire pour que ça soit que je puisse m'identifier, je pouvais écrire et mettre dans 10 pelles, il me sort un allemand, mais ce ne sera pas mon allemand, en fait. Donc, j'écrivais, je réécrivais. Et puis, c'est vrai, pendant une année et demie, je peux humblement dire, on a vécu un réveil dans cette église. Alors que moi, je tremblais chaque fois après mes messages, c'est les gens qui venaient en disant, voilà ce que Dieu est en train de faire chez moi, est-ce que tu peux prier pour moi. Et Dieu donnait des indications, des trucs. Et puis j'ai dit, mais bon. Et, en gros, j'ai vu que Dieu a utilisé ce moment-là pour moi me restaurer. Hein, parce que je n'avais plus confiance. Est-ce que je peux encore donner quelque chose dans le corps du Christ? Et maintenant, voilà, c'est même pas ma langue. Et apparemment, Dieu est en train d'agir. Et j'ai repris confiance petit à petit. Et sauf que une année et demie après, mai 2024, j'entends là de nouveau Dieu me dit, écoute, fin décembre 2024, tu vas arrêter tes 20% à l'église et fin décembre 2025, arrêter ton pourcentage à campus. Là, je peux recevoir plus facilement parce que je sais, l'expérience m'a montré que c'est un chemin, il faut pas entrer, en fait. Et quand on sait que Dieu nous parle clairement et commencer à jouer des tours, comme des slalom, comme j'avais fait 2, 4 ans auparavant, je ne voulais plus, mais je tremblais, quand je venais à Bevegung Plus, mon collègue Daniel Chies, il était en rémission d'un cancer depuis 10 ans à l'époque. Pendant une année, on a vécu un temps fort, hein, où on se complétait tellement fortement dans nos dons, les domaines où moi, c'est vraiment pas mon truc, lui, il est bon là, et puis c'était juste génial. Sauf que une année de travail ensemble après, son cancer reprend. C'était janvier 2000, au fait, même octobre, en automne 2023 déjà. Et c'est vrai, là, j'étais en train de prier. J'ai dit, mais Seigneur, comment on va faire? J'ai commencé un réseau de prières au niveau de l'église, en fait, au niveau des anciens pour lui. Et puis, je demandais à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux le reprendre ou tu veux le guérir? Et j'entends clairement, je vais le reprendre. Et bien, ça, je ne peux pas dire. Enfin, donc, du coup, j'ai gardé ça en moi pendant près d'une année, en fait. 2024 commence. Et puis, lui, c'était chimio pendant un temps jusqu'au mois de mai. Et puis, c'était stable. C'était ni bon, ni mauvais, stable. Et c'est là, que j'entends 7 mois ou 6 mois après d'arrêter. J'ai quand même partagé avec Daï en disant, voilà ce que je reçois. Il dit, mais comment on peut dire ça à l'église? J'ai dit, mais ouais, si c'est de Dieu, on va voir. Et puis, je garde silence. C'est vrai, déjà assez rapidement, j'informe aussi mon responsable à campus en disant, dans une année et demie, voilà ce que j'ai reçu. Je vais arrêter. OK? Lui, on a déjà discuté depuis, il connaît, mais j'ai oué des bas et puis donc on a pris un temps, on a prié, mais je devais me focaliser sur les 6 mois qui viennent pour Bevegung Plus. Et puis on va en été et puis on revient, il y avait encore un week-end d'église et puis Daï était encore bien en forme. On vit ce week-end et fin août, en fait, il y a des effets secondaires d'une thérapie qu'il fait, et à partir de là, mais c'est rendez-vous à l'hôpital, rendez-vous sur rendez-vous, et puis quelqu'un de la fédération vient accompagner l'église. La première question qu'il nous posait au responsable, là, c'est où est-ce que vous vous voyez dans 2 ans dans l'église? J'ai dit, voilà, dans 6 mois ou dans 5 mois, moi, je vais arrêter. Et début décembre, j'annonce à l'église que je vais arrêter à la fin du mois. C'est vrai, on avait déjà informé tous les différents groupes. J'annonce ça et 2 semaines après, mon collègue, pour qui j'étais venu là, décède, vers mi-décembre. C'est vrai, l'automne a été tumultueux pour moi. On parlait dans une prière des émotions et c'était un peu comme ça dans la même journée. Seigneur, c'est vraiment toi. Et c'est seulement après son décès que je commence à comprendre tout ce que Dieu me disait depuis ces 6 mois-là. Parce que si j'attendais son décès, après, je n'aurais plus le courage de quitter, au fait. Et puis je dis, OK. Mais je reste dans les responsables de l'église encore jusqu'en février dernier, au fait. Parce que, entre-temps, pendant une année, Dieu vraiment conduit les choses. On a engagé 2 pasteurs, un en août de l'année passée et un en janvier de cette année. Et là, j'ai vu l'église dans une nouvelle phase de stabilité. J'ai dit, Seigneur, je peux partir. Et ma famille continue à aller là à l'église. Et moi, quand je ne suis pas à droite, à gauche en train de prêcher, je vais aussi là. Et puis, l'année passée, j'arrête aussi décembre campus. Mais là, durant toute l'année écoulée, c'était parce que arrêter à campus, c'était aussi mon employeur et tout. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je savais ce qui était clair, c'était les mouvements de prière, les réseaux de prière. Et durant l'année dernière, je pense que c'est une des des années où j'ai été le plus renfermé sur moi-même parce que les gens me posaient des questions. Noël, mais là, comment tu vas faire? J'étais plus, je discutais plus, j'étais envahi de peur, de doute. Donc c'était, je me réfugiais dans la prière. C'était seulement dans la prière que j'avais la paix. Quand je priais, je savais, c'est comme ça, il fallait faire. Quand je discutais, j'étais troublé. Donc je discutais de moins en moins. Je marchais, je ainsi de suite. Puis mi-décembre, décembre de nouveau. C'est vrai, les derniers mois de l'année passée, j'ai été en contact avec la SMG. Je ne sais pas si vous connaissez cette mission. Là, c'est en gros, eux, ils engagent des missionnaires, mais ils ne leur donnent pas de travail. Les missionnaires viennent déjà avec leur projet. Et puis, quand je leur présentais ma vision des réseaux de prière, en gros, un mouvement d'évangélisation, mais au travers de la prière, c'est quelque chose qui leur parlait. Et finalement, en décembre dernier, vers fin décembre, ils m'ont engagé. Et puis, c'est comme à campus, il faut chercher les partenaires de mission et tout. Donc, j'ai commencé depuis janvier chez eux à 80%. Et puis, c'est vrai, le vrai défi, c'était est-ce que mes partenaires avant allaient venir avec? Et j'étais tellement reconnaissant de voir tous ces presque tous et de nouveau se sont joints. Et maintenant, il me manque presque 20% de nouveau à trouver, au fait. Mais dehors de ça, depuis janvier, c'était comme si au mois de janvier, tout ce que Dieu me disait ces 8 dernières années, je voyais comme dans un rêve. Hein. Dans ma tête, c'était clair, mais dans la réalité, on ne pouvait le voir nulle part. Mais à partir du mois de janvier, je disais, mais Seigneur, il y a des détails, je ne peux pas les expliquer, c'est des comment les choses viennent ensemble. Mon vocabulaire étant limité, je vais dire comme ça, j'ai eu peur de Dieu, mais positivement, en fait, de voir comment sur des années, même si on s'égare un peu, on fait des pauses, tout ce qu'il a dit, il l'accomplit en son temps. Et puis c'est dans ce moment-là, je partage avec Jean-Paul, et puis ici, je tiens à remercier votre communauté de m'avoir ouvert vos portes. C'est comme un laboratoire pour moi, c'est vrai. Si je n'ai pas un lieu pour expérimenter tout ce qui est sur mon cœur, ça reste juste des pensées, au fait. Hein. Donc, et puis là, on peut vivre ce chemin. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'est vrai, en automne dernier aussi, je disais adieu, c'était en septembre. Un matin, j'avais un mariage à célébrer, l'après-midi. J'ai dit, ben, Seigneur, dans 3 mois, je fais ce changement, mais il y a encore, c'est pas encore tout clair. Ouais, c'est, voilà. Et puis là, je reçois une idée. Mais lance des églises de maison, soutient les églises existantes. J'ai dit, OK, église de maison, OK, on va essayer. Alors, j'appelle quelques amis que je connais et qui n'étaient plus dans une église. J'ai dit, voilà l'idée que j'ai. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Et chacun que je rencontre me dit, mais bon, on est dans une phase. C'était exactement ça, on a besoin. Ou un, je vais marcher avec lui, et puis je me dis au moins on va marcher 1 heure de temps pour que je lui explique. En 10 minutes, il dit, écoute, c'est de ça j'ai besoin. Et puis en quelques semaines, on démarre à 3 endroits, le plus loin à Fribourg, mais bon, c'est encore de petits noyaux, hein. Et tout tourne autour de l'évangélisation, mouvement d'évangélisation au travers de la prière. Donc, mais de voir tout ce que Dieu nous dit, si c'est lui, ce qu'il dit, il le concrétise au fait, hein, clairement. Et aussi, ça fait 4 ans, j'ai un bureau ici à Bienne et mon souhait au début, c'était de que ce soit une maison de prière. Je ne voulais pas forcément que ça soit mon bureau, mais offrir un lieu où des chrétiens de Bienne, on peut aller et prier. J'ai essayé, encouragé, marché truc. Ça avait pris, ça s'est arrêté. J'ai dit, Seigneur, c'est bon. Et maintenant, au début de cette année, curieusement, c'est les gens qui me demandent, Mais ton idée d'église, de maison de prière, t'as toujours besoin de gens. Et ça fait qu'en février, on a démarré, il y a un noyau qui se retrouve régulièrement maintenant. Et j'ai dit, mais bon, moi, je pourrais depuis plusieurs mois, mais curieusement, en janvier, voilà, et puis. Au travers de tout ce témoignage, c'est déjà pour que vous connaissiez un peu la suite du cheminement, qu'est-ce que je vis actuellement, mais aussi si c'est Dieu qui nous parle, ce qu'il dit, il est grand pour le faire. Il est assez grand pour faire tout ce qu'il a dit. Et comme Josué disait à ses compatriotes, aucune des bonnes paroles que Dieu a données n'a été, enfin, n'est restée inaccomplie. En fait. Et donc, tout ce que Dieu dit dans des détails qui nous étonnent, il les accomplit. Donc voilà un peu mes engagements maintenant, c'est des écoles de prière, comme Jean-Paul le disait, comme ça on grandit ensemble tous. En fait, hein, c'est déjà un mot qui nous défie un peu, mais pour dire, personne ne maîtrise la prière. Et on est tous en train d'apprendre et de grandir. Dedans, en fait. Et puis, ouais, maison de prière, église de maison, aider à droite, à gauche, dans des églises existantes. Et voilà la première partie. Et votre premier chant ce matin m'a beaucoup touché, parce que c'est tout ce qui me travaillait là et que je souhaitais partager. Il y a Habacuc 2, 14 qui dit, la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre, comme le fond de l'océan est recouvert d'eau. Et Ésaïe 40 dit quelque chose dans le même sens. Il dit, alors la gloire de l'Éternel paraît. Il y a ma grande souris qui... Alors la gloire de l'Éternel paraîtra et toute la terre la verra. Enfin, et je me suis dit, il y a ce alors, et je me suis dit, mais bon, c'est quoi qui va déclencher cette parution de la gloire de l'Éternel, hein? Alors la gloire de l'Éternel paraîtra et toute la terre la verra. Et là, on va juste lire un peu ensemble. Je vais vous offrir cette lecture comme on a fait une fois ou l'autre déjà, et vous accueillez-la, et puis. Ésaïe 40, partie du verset 3 et 4. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline baissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Et on a le verset que j'avais déjà lu là. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Je vous invite juste à faire un moment de silence pour accueillir cette parole. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait partager quelque chose par rapport à ce passage. La gloire de l'Éternel paraîtra. Alors, et oui, et puis celui qui parle dans le désert, une voix crie dans le désert, ça apparaît aussi dans le Nouveau Testament. Parce que dans Ésaïe 40, Ésaïe dit certaines choses. Mais je me suis dit, mais comment aplanir le chemin de l'Éternel? Et c'est dans Matthieu 3, versets 1 à 3, qu'on voit ce passage-là. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il est dans le désert aussi. On disait préparer le chemin de Dieu dans le désert. Et prêchant dans le désert, il disait, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, planissez ses sentiers. Donc, du coup, je m'attendais à ce que Jean-Baptiste vienne et dise exactement les mots que Ésaïe a dit à son sujet. Mais lui, il dit complètement, en fait, je ne vais pas dire complètement autre chose, mais il utilise un autre mot. Il dit, repentez-vous. Hein, c'est comme ça, la voix qui crie dans le désert, Ésaïe disait, cette voix dit, ben, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez, redressez, rabaissez, rehaussez. Donc, du coup, physique, géographique, visuel. Et Jean-Baptiste dit un truc, repentez-vous. Et ça, on connaît ce mot, hein, repentance, repentez-vous. Il n'y a pas si longtemps que j'ai découvert un autre aspect. En fait, j'apprends souvent des langues. J'avais appris l'allemand et puis la dernière fois, je vous ai dit ce que ça m'a permis de comprendre, hein, Éphésiens 1 mieux. Et cette fois-ci, j'apprends l'anglais, en fait, il y a quoi? 2, 3 ans en arrière, et puis je lisais du coup la Bible en anglais, j'avais une version très simple, et eux, ils traduisent repentez-vous par return back to God. Excusez mon accent. Hein? Et puis, donc, retournez à Dieu. Au lieu de repentez-vous, en fait, il y a, parce qu'il y a aussi repent en anglais, mais ils disent return back to God. OK? Donc, celui qui veut se repentir, c'est en gros retourner à Dieu. J'ai dit, mais bon, retourner, c'est que je connais un endroit où j'étais et puis je retourne là-bas. Mais ça, on aurait pu l'appliquer à quelqu'un qui connaissait Dieu et qui s'est éloigné et qui revient. Mais non, même si un enfant veut se convertir, se return back to God, c'est comme s'il connaissait Dieu. Et il veut revenir à lui. Et ça m'a fait réfléchir, travailler. Vous connaissez aussi mon amour pour Genèse 1 et 2. Et ça m'a rappelé, en gros, je fais le résumé là, retourner à Dieu parce qu'on était avec Dieu en Adam, toute l'humanité était avec Dieu. Et en Adam aussi, on s'est séparé de Dieu. Et maintenant, on va imaginer le jardin d'Éden, hein? Et puis, tout ce qu'il y a eu dans ce jardin, ensuite, ça a été transformé en tribunal. Adam a été jugé et expulsé. OK, le jardin des délices, là où il devait rencontrer Dieu. Mais imaginons Adam et Ève, pour la première fois, dehors, hors du jardin. Et Adam, j'imagine qu'il se tourne pour revoir l'entrée, désormais la porte de sortie de ce jardin. Et là, il y a même déjà des anges très puissants qui balançaient des épées, au fait, hein, flamboyantes. Et il sait que plus jamais il ne pourra retourner dans ce jardin. Et je me dis, ce qui se passe dans la tête d'Adam à ce moment, je ne veux pas être dans sa tête, mais si on parle de traumatisme aujourd'hui, ça doit être le début des traumatismes. Hein? C'est tout son monde qui s'écroule. Il dit, mais pourquoi, nom de je ne sais pas quoi, pourquoi j'ai pas gardé ce jardin? Et maintenant, je dois le quitter. Il ne voulait pas garder. Voilà, les anges le gardent. Maintenant, c'est contre lui qui le garde. Et Adam doit partir. Et sa vie sera une errance. On pourra appeler toute sa vie, même s'il est dans des endroits verdoyants, ça pourra être appelé un désert, parce que c'est là où Dieu n'est pas. Préparer dans le désert le chemin de Dieu. En gros, depuis là, c'est comme si le monde entier est devenu un désert. Là où Dieu n'habite pas, les relations où Dieu n'est pas, c'est comme un désert. Et Adam sait que c'est fini. Mais imaginons, maintenant que peut-être je fais une parenthèse là, parce que Matthieu 3, quand Jean-Baptiste vient, il dit une seule phrase, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Un chapitre après, C'est Jésus qui est sur scène, Matthieu 4, verset 17. Et est-ce que vous savez les premières paroles de Jésus? Exactement la même chose comme Jean-Baptiste. Répentez-vous, car le royaume des cieux est. Donc, Jésus vient aussi dire, retournez à Dieu, car le royaume des cieux est proche. Et, parti de là, retourner à Dieu, j'ai commencé à me dire, c'est comme si Dieu, Jésus, rencontrait Adam dans son errance et dit, désormais, retourne dans le jardin. Les anges sont enlevés. Il n'y a plus quelqu'un pour garder le jardin contre toi. Donc, retourner à Dieu, la repentance est comme un retour dans ce jardin où Adam ne pouvait plus habiter. J'imagine que si Adam de son vivant entendait ce message, ce serait la bonne nouvelle de toutes les nouvelles, au fait. Et c'est aussi pour ça que l'évangile est appelé la bonne nouvelle. Adam ne l'a pas entendu, mais les fils et les filles d'Adam l'entendent. Retourner à Dieu. Donc, c'est comme un message. Et ce qui est aussi horrible avec l'idée de la repentance, c'est que Satan a réussi à tordre le cou à cette bonne nouvelle au point où quand on dit repentance, mais c'est comme un jargon des chrétiens, un truc, c'est quand on n'a plus grand-chose à faire, on parle de repentance. Et puis, c'était ce après quoi Adam a langui. Il ne pouvait même pas imaginer que ça existe. Mais c'est exactement ça. Jésus vient et dit, comme au fils d'Adam, retournez à Dieu. Le lieu où Dieu habitait dans le jardin où il vous rencontrait, ce lieu est désormais accessible. Et à partir de là, c'est vrai que quand je découvre ça, j'ai dit, mais bon, je veux prêcher la repentance partout. Je veux prêcher cette bonne nouvelle. Partout où je peux, au travers de la repentance, nous retournons à Dieu, au travers de la repentance. Et c'est intéressant quand Ésaïe dit, préparez le chemin de l'Éternel, tout ce qu'il demandait à faire hein, géographiquement, Jean-Baptiste vient et nous dit, au fait, les chemins à redresser, tout ce qu'il a fait là, c'est au travers de retourner à Dieu, c'est au travers de la repentance. Et Ésaïe dit, après la repentance, qu'est-ce qui va se passer? La gloire de Dieu va être. Et excusez, on fait pas mal de gymnastique avec ces versets-là, mais ce qui se passe aussi dans Jean, dans Matthieu 3, on parlait de Jean-Baptiste qui dit repentez-vous, hein. Et puis Ésaïe disait après la repentance, la gloire de Dieu apparaît. Et dans Matthieu 4, qu'est-ce qu'on voit? C'est Jésus qui vient sur scène, la gloire de Dieu en personne. Quand Matthieu 3 annonce la repentance, quand les gens se repentent, Jésus vient. Et donc, pour sa première venue, c'est un peu ça. Et pour sa deuxième venue aussi, quand nous préparons le chemin de Dieu au travers de la repentance, ça prépare le terrain pour que Jésus revienne, en fait, hein, quelque part. Et puis, c'est avec toutes ces découvertes-là que je me suis dit, oui, on a parlé de dimanche dernier de ce rêve de Dieu, mais nous, on ne peut pas le réaliser non plus. Donc, on doit retourner à Dieu pour lui demander d'accomplir son rêve. Voilà pourquoi, au niveau de ces mouvements de prière, les jours où on prie, on dit, mais on veut se repentir. Repentir pour les groupes pour lesquels on prie, parce que je peux mettre tellement de sujets. Voilà, Seigneur, bénis tel groupe de personnes, bénis tel, bénis tel. Mais le meilleur qui puisse leur arriver, c'est tout simplement de retourner dans le jardin, de retourner dans la présence de Dieu. Et comme eux-mêmes, peut-être leurs yeux sont encore aveuglés et ils ne connaissent pas cette bonne nouvelle de la repentance, nous les représentons en gros. Hein. Les familles qui nous entourent, les personnes seules qui nous entourent, les enfants, les grands-parents qui nous entourent, c'est comme si nous nous mettons à leur place et nous disons, Seigneur, permets qu'ils retournent dans le jardin. Mais c'est pas pour dire que nous, même, c'est déjà terminé, nous, on n'a plus besoin de repentance, non. Je me raconte, et il y a, c'est vrai, un passage biblique qui m'attriste beaucoup, c'est quand Dieu dit, toujours dans Ésaïe de nouveau, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes pensées sont comme le ciel est séparé de la terre, c'est comme ça mes pensées sont et vos pensées. Et je rêve de ce moment-là où les pensées de Dieu sont synchronisées avec mes pensées, où je pense des choses qui sont synchronisées avec ce que Dieu pense. Et oui, on peut me demander, mais bon, on s'est repenti une fois quand on a donné notre vie à Jésus, oui, mais entre-temps, on a été souillé, nos pensées, pas notre monde, tout ce qui nous entoure. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui est lavé, il peut encore se laver les pieds, au fait, qu'il y a de la poussière qui entoure. C'est pour ça, nous-mêmes, en nous repentant pour les autres, on se repent nous-mêmes, en disant, mais Seigneur, je voudrais que mes pensées soient tellement tes pensées, quand je pense, que ce soit ce que tu as déjà pensé, au fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'unit au Seigneur forme un seul esprit avec lui. Et ça, c'est un peu ma quête de dire, je veux grandir dans cette union avec le Seigneur au point où, mais oui, son esprit et mon esprit sont un, au fait. C'est déjà le cas, mais je vagabonde de temps en temps. Je laisse son esprit et je vais chercher mes propres trucs. Et puis je dois revenir par la repentance continuellement, revenir dans le jardin. Mais que ça devienne comme un mode de pensée. Quand je pense, je sais, c'est ce qui est déjà sur le cœur de Dieu. Et puis, avec l'idée de retourner dans le jardin, je me suis dit, mais bon, écoute, s'il y a un lieu où je peux habiter, c'est le lieu de la repentance. Et puis, il y a aussi ce passage biblique dans 2 Chroniques 7, versets 12 à 14 ou à 15 même. Mais l'Éternel parut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je te choisis ou et je choisis ce lieu et comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Et quand je pense à ces mouvements de prière, ce dont je rêve, c'est comme si on navigue sous les cieux ouverts, hein. Quand je pense à la gloire de Dieu, c'est comme si on est sous les cieux ouverts. Au baptême de Jésus, il y a eu les cieux ouverts. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu parle. L'Esprit de Dieu intervient, en fait. Et, en pensant à l'idée du ciel, des cieux ouverts, ici, on voit que Dieu peut même fermer son ciel. Quand le mal augmente dans notre monde, sur notre terre, des fois, contre son propre gré, contre cœur, Dieu ferme le ciel. Ici, on parlait de pluie et tout, mais c'est comme si il nous laisse, au fait, hein, pour, ouais, les gens sont livrés à leurs propres intentions, mais quand on est sous les cieux ouverts, on parle de pluie, mais ces pluies sont après aussi spirituelles, ça peut être aussi physique, et c'est un peu mon rêve que le plus de chrétiens possible prennent conscience, nous prenions conscience de cette bonne nouvelle qu'on a, de pouvoir participer aux cieux ouverts quelque part, en fait, hein, où la gloire de Dieu paraît. Alors, la gloire de Dieu paraît. Je vais relire ces deux ou ces versets qu'on avait lus. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Planissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit haussée et que toute montagne et toute colline soit abaissée. que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons, alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Seigneur, je te bénis pour cette bonne nouvelle de la repentance, cette bonne nouvelle de retour dans le jardin. Le jardin est ouvert. Et on n'a pas besoin d'aller le chercher quelque part. Il est là où j'habite. Il est là dans mon cœur. Je peux retourner dans le jardin. Je peux retourner à Dieu. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à retourner à toi, à retourner dans le jardin. Et aide aussi que de plus en plus dans notre monde retourne dans ce jardin. Merci, Seigneur.